Voilà, un très grand merci au Père Olivier d'avoir accepté de venir, comme l'année dernière, nous donner une parole pour ouvrir notre année pastorale. Nous sommes peu nombreux, beaucoup de personnes ont écrit ou se sont manifestées pour expliquer pourquoi ce n'était pas possible pour elles, mais de toute façon, voilà. Nous porterons ensemble la paroisse aujourd'hui et nous allons essayer de nous ouvrir ensemble à ce que le Seigneur veut nous dire. L'année dernière, donc, nous avions pris comme thème d'année « Grandir dans la charité ». Et c'est toi, Père Olivier, qui nous avait indiqué aussi que la charité est liée à la fraternité. Et donc, cette année, c'est le thème de la fraternité que nous voulons approfondir. Et c'est aussi cohérent, avec la visite du Saint-Père en ce moment à Marseille, qui vient nous rappeler donc l'exigence de la fraternité non seulement entre nous, mais avec tout homme. Voilà, un grand, grand merci, Père Olivier, pour ta disponibilité. Est-ce que tout le monde entend? Il n'y a pas de souci?
Ça va? Ah, il n'y a pas besoin, je pense. Parce que le micro, ça va siffler. Ah bah, si vous voulez, on peut essayer.
Mais... parce que... j'ai baissé le gars, donc
moi, je veux bien essayer, mais...
ça va aller. Essaye pour voir.
Un, deux. C'est mieux ?
Ça va.
Ça va ? Bon, ça siffle pas.
Vas-y, parle un peu pour
non.
Voir.
Ça va. Bon, merci beaucoup, en tout cas, de m'inviter à réfléchir avec vous sur ce thème de la fraternité, qui est plus qu'un thème, c'est vraiment un appel que nous recevons. Et c'est vrai, François-Xavier parlait du pape François, et sans doute on gardera le souvenir de ce pape, qui est encore bien, bien solide. C'est le pape de la fraternité, je crois. Voilà, il a écrit une exhortation qui s'appelle « Fratelli tutti », une encyclique, « Fratelli tutti », tous frères. Voilà, il a choisi ce nom, François, pas par hasard, hein, c'est une référence aussi à François d'Assise, qui est aussi un apôtre de la fraternité entre tous les peuples. Voilà, et on voit bien que la fraternité est un enjeu aujourd'hui, et peut-être ça nous saute encore plus aux yeux qu'il y a quelques années, même si je pense que toutes les générations redécouvrent que nous avons besoin de fraternité. Je voudrais juste commencer par lire cette dans la joie de l'Évangile, donc une autre exhortation du pape François, ce qu'il disait. Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes les communautés du monde un témoignage de communion fraternelle qui devient attrayant et lumineux. Que tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns des autres et comment vous vous encouragez mutuellement. Et comment vous vous accompagnez. Voilà, c'est le numéro 19 de la joie de l'Évangile. Voilà, donc c'est un appel qui retentit dans le monde, je crois. Voilà, c'est la fraternité, vous savez bien que c'est un des éléments de notre devise républicaine même. Voilà, liberté, égalité, fraternité. Voilà. Alors qu'est-ce qu'une communauté chrétienne, puisqu'il s'agit bien de vivre la fraternité au nom de notre foi aussi. Bien sûr, la fraternité est inscrite dans notre humanité, l'appel à la fraternité, mais aussi il y a une spécificité chrétienne. Et comment nous pouvons la vivre dans une communauté chrétienne ? D'abord, on parle de communauté. Voilà, vous formez une communauté, nous formons une communauté. Une communauté suppose des liens particuliers qui unissent ses membres. Voilà. Il y a toutes sortes de communautés, et en premier lieu, la communauté à laquelle nous appartenons tous, la communauté humaine, bien sûr, mais aussi une communauté familiale. Nous sommes tous membres d'une famille, une famille humaine. Nos parents, nos frères et sœurs, nos enfants. Voilà. Et c'est pour nous, voilà. À quelle communauté nous appartenons. Voilà. Et il y en a beaucoup. Chacun pourrait réfléchir et faire les cercles des communautés auxquelles il appartient. Voilà. Communauté humaine, bien sûr, communauté nationale, communauté communale, paroissiale, communauté liée à des engagements que nous pouvons avoir dans des associations. Les associations sont une forme de communauté, voilà, que ce soit sportive, culturelle. Voilà, parler de communauté chrétienne, cela suppose que ce qui fonde notre lien, c'est notre foi en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas ça n'est pas parce que nous nous aimons, a priori, ça n'est pas parce que nous avons le même centre d'intérêt, c'est notre foi en Jésus-Christ. Voilà, la communauté chrétienne est fondée par le Christ. Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, dit le Seigneur à Pierre. Voilà, c'est bien le Christ qui nous rassemble et qui fait de l'Église une famille. Et donc nous voyons que notre communauté a ceci de particulier, c'est que elle est constituée par le Christ. Ce n'est pas nous. Voilà, nous ne nous sommes pas choisis. C'est le Seigneur qui nous a appelés, qui nous a choisis et qui nous a mis ensemble. Voilà. Par des biais bien différents. Et c'est tout à fait particulier parce que vous voyez que c'est pas la même chose pour la communauté de ceux qui vont jouer au foot le dimanche matin. Voilà, ils ont choisi le foot. Ou alors la communauté de ceux qui sont dans un parti politique. Ils ont choisi. Donc là, c'est différent. On a été choisi. Alors, je parle de communauté, mais bien sûr, notre thème, c'est la fraternité. Et pourquoi parler de fraternité dans la communauté chrétienne? Parce que c'est le Seigneur, là aussi, qui le dit. Il parle des frères. Voilà, qui est ma mère, qui sont mes frères? C'est nous, ses frères. Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Voilà, donc, on voit bien que c'est le Seigneur Jésus qui lui-même dit que nous sommes des frères, si nous faisons la volonté du Seigneur. Voilà, et donc c'est lui qui instaure une nouvelle fraternité. Il nous invite à être ses frères, et donc à être les frères les uns des autres. Et c'est un don que nous recevons par son appel, et donc par le baptême. Par le baptême, nous sommes consacrés frères et sœurs. On peut dire ça. Nous sommes consacrés. D'ailleurs, nos frères qui sont consacrés là, religieux, ils sont consacrés et on dit frères. C'est vrai. Voilà, c'est un signe fort. Voilà. Mais il me semble que on le voit bien d'ailleurs. Vous voyez, quand on parle entre chrétiens, on dit frères et sœurs. Donc c'est quoi la réalité qu'il y a derrière? Alors moi, par exemple, c'est vrai que quand les prêtres ont tous un peu une manière différente. En tout cas, on démarre jamais nos homélies en disant « Mesdames, Messieurs ». Voilà. Alors, parfois, on dit « Frères et Sœurs ». Voilà, donc on plante le décor. On dit « On est une famille, on est frères et sœurs ». Parfois, on dit « Chers amis ». Mais ce qui est évangélique aussi. Le Seigneur dit « Je vous appelle mes amis ». Voilà, donc... Mais la fraternité est au cœur de notre identité, en fait. Alors, c'est une fraternité pour le monde. C'est peut-être une fraternité ouverte à tous. Et c'est le témoignage que l'Église peut donner au monde. Voilà, et tu faisais référence au voyage du pape François à Marseille. C'en est une belle illustration. Et finalement, tout son message... Et là, dire, mais nous sommes frères, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ton frère? C'est une, Ça devrait résonner sans cesse dans notre cœur. Qu'as-tu fait de ton frère qui se noie en Méditerranée? Qu'as-tu fait de ton frère qui est désespéré et qui habite au bout de la rue? C'est ton frère. Alors pourtant, nous voyons bien que c'est dans notre identité chrétienne, et j'y reviendrai, mais nous voyons qu'il y a des obstacles. Et il y a des défis face à la fraternité, pour le monde et pour les chrétiens. Dans la joie de l'Évangile, le pape écrit « L'individualisme postmoderne et mondialisé favorise un style de vie qui affaiblit le développement et la stabilité des liens entre les personnes et qui dénature les liens familiaux. L'action pastorale doit montrer encore mieux que la relation avec notre Père exige et encourage une communion qui guérit, promeut et renforce les liens interpersonnels. » Voilà, il y a un contexte qui n'est pas favorable à la fraternité. Il faut le prendre en compte. Mais du coup, c'est un appel. On pourrait citer beaucoup de choses. Voilà, l'individualisme, qui est quand même un courant qui est très fort, en tout cas dans les sociétés occidentales, va à l'encontre de la fraternité, le matérialisme, l'égoïsme. Voilà. Et pourtant, il y a une attente très forte. On voit bien que le monde est fracturé, qu'il est de plus en plus clivé. On parle de clivé, ouais, clivé. Voilà. Les gens se divisent, ils ont du mal à se parler. En France, on voit bien, le dialogue est très difficile, très très difficile. Et c'est vrai au niveau mondial, mais voilà, la solitude est une réalité de plus en plus prégnante de nos sociétés occidentales. Les gens sont de plus en plus seuls. Et c'est une souffrance énorme, aussi bien pour les jeunes que pour les personnes âgées. On parle souvent de la souffrance des personnes âgées, de leur solitude, mais les jeunes vivent une solitude parfois extrêmement dure. Ils sont seuls devant une multitude de problèmes. Voilà, donc la fraternité est blessée. Et nos communautés chrétiennes sont marquées par l'esprit du monde. Nous faisons aussi l'expérience de la sécularisation, de la dispersion. Et nous faisons l'expérience que notre fraternité... Je pense que les communautés chrétiennes, pendant des années, je parle d'ici, la communauté chrétienne se confondait avec la communauté de vie. Voilà. C'est-à-dire que la commune et la paroisse, c'était la même chose. Donc la fraternité était donnée parce que les gens vivaient ensemble. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça ne se superpose plus, pas chez nous en Europe en tout cas. Quand je discute avec par exemple Joseph Marie qui est vietnamien, qui est prêtre dans le diocèse, lui dans son village au Vietnam, c'est un village 100% chrétien. 100% chrétien. Dans un contexte quand même de persécution des chrétiens. Donc le village et la communauté chrétienne se confondent. C'est une communauté fraternelle. Voilà, ils vivent vraiment. Nous, c'est différent. Vous voyez bien, on est devenu ultra minoritaire. On ne l'a pas pris toujours en compte. Mais on est devenu ultra minoritaire. Mais ce n'est pas nouveau dans la vie de l'Église. C'est comme ça dans plein de pays. Et ça l'a été pendant des siècles. Mais il faut qu'on le reprenne bien en compte. Parce que du coup, ça a des conséquences pour notre manière de vivre la fraternité. Alors, juste avant d'aller un peu plus loin, je voudrais redire aussi que la fraternité, elle est liée à notre identité chrétienne. Elle découle du don de Dieu, de notre baptême. Nous sommes appelés à vivre en frères et sœurs, les uns avec les autres et avec tous. Mais la fraternité est aussi une exigence de la mission. C'est-à-dire, elle est au cœur du message évangélique, elle est au cœur de la bonne nouvelle. Puisque la fraternité est blessée, la fraternité doit être sauvée. Et c'est ce que fait le Seigneur. Elle doit être restaurée. Ça fait partie du projet de Dieu. Voilà, mais en tout cas, la fraternité n'est pas une option pour le disciple. Elle est inhérente à l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, on ne peut pas annoncer la bonne nouvelle sans vivre la fraternité, ce n'est pas possible. Alors, je voudrais juste, voilà, avant d'aller plus loin, prendre un petit parcours biblique pour dire, voilà, parce que je vous dis que la fraternité est au cœur de la bonne nouvelle. Et elle a besoin d'être sauvée. Si on fait un parcours dans la Bible, en commençant par vraiment le livre de la Genèse, on voit que de Caïn et Abel jusqu'à la parabole du fils prodigue, la Bible est le grand livre des fraternités contrariées. Il n'y a que des histoires de fraternités contrariées. C'est au cœur de l'œuvre du diviseur. Voilà. Il vient contrarier le plan de Dieu et Dieu va venir restaurer et sauver en Jésus-Christ, qui est le frère universel. Alors, c'est vrai qu'il y a, certains récits dans la Bible qui apparaissent comme édifiants, par exemple Moïse et Aaron dans le livre de l'Exode, David et Jonathan dans le premier livre de Samuel. Donc là, il y a une fraternité, voilà, qui est forte, et on voit qu'elle produit du fruit, entre guillemets. Mais la plupart du temps, les récits où on parle de fraternité mettent en scène des frères et sœurs divisés, des fratries déchirées par la convoitise. Et cela occasionne viol et meurtre. Donc, je parlais de Caïn tuant Abel. Il y a Abraham et Lot qui se séparent. Il y a Jacob qui convoite le droit d'aînesse d'Ésaü. Ça, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 25. Il y a Joseph qui est vendu par ses frères. Et finalement, la Bible nous montre... Le récit biblique nous montre l'humanité réelle telle qu'elle est. La fraternité n'est pas une donnée naturelle, mais se construit. Et vivre en frère est possible, mais au terme d'un chemin exigeant où nous devons dépasser notre propre violence, notre égoïsme, même au sein des familles de sang. Il s'agit de s'adopter, de s'accueillir et d'établir un véritable lien d'amitié. Voilà, dans le récit au livre chapitre 4 de la Genèse, lorsque Dieu cherche Abel, Caïn rétorque, « Est-ce que je suis, moi, le gardien de mon frère ?» Voilà, c'est « Est-ce que je suis le gardien de mon frère ?» C'est la question de En creux, Caïn décrit là ce qu'est être frère, avoir le souci de l'autre. Se regarder, se considérer, c'est-à-dire se respecter et se parler. C'est ce qu'ont réussi à faire Moïse et Aaron. Ils se sont acceptés et existent dans un rapport de complémentarité. L'un reçoit la parole, l'autre la traduit. Alors un autre récit... Le récit mettant au prix Joseph et ses frères, fils de Jacob. Voilà, il a été vendu. Mais la réconciliation est possible. Elle peut mettre un terme à la violence. 2 années après s'être séparés, débarrassés de Joseph en le vendant, ses frères se retrouvent face à lui sans le savoir, puisqu'il est devenu le premier ministre du Pharaon en Égypte. Et ils ont été poussés jusqu'à l'Égypte par la famille. Joseph les jette en prison, mais sa colère s'apaise lorsque les frères reconnaissent leur tort. Voilà. Hélas, nous sommes coupables envers Joseph, notre frère. Donc on voit que la fraternité, au terme d'un chemin, est restaurée. Donc c'est là-dessus que je voulais insister. Dans la Bible, dans beaucoup de récits, on voit bien que la fraternité initiale est blessée, et au terme d'un chemin de réconciliation, voilà, elle peut être restaurée. Mais elle peut être restaurée parce que, voilà, elle est l'œuvre de Dieu qui a été... La fraternité est fondée par le Seigneur. Dans la Genèse, Dieu crée l'humanité à son image. C'est ce qui fonde la fraternité. Être frère, c'est reconnaître en l'autre l'image de Dieu. Enfin, c'est un des éléments. En tout cas, dans l'Ancien Testament. L'autre élément, c'est que le peuple d'Israël est constitué comme peuple, ce que je disais tout à l'heure par rapport à la communauté, par Dieu qui l'appelle. C'est le peuple... Voilà, une notion de fraternité universelle est déjà présente dans l'Ancien Testament. Israël, défini comme une communauté de frères, est appelé à accueillir le Lévite, l'immigré, l'orphelin, la veuve. Vous voyez, on parlait déjà de l'immigré, hein, comme quoi, je pensais à ça hier en écoutant le pape François. Évidemment, c'est un sujet prégnant aujourd'hui, mais il traverse tous les récits bibliques, l'évangile. Et donc, je suis étonné que des gens s'étonnent que le pape François parle de ça. Qu'est-ce qu'il pourrait dire d'autre ? Alors, on peut dire c'est compliqué, etc. Non, parce que il ne fait que dire la parole de Dieu. Il ne peut rien dire d'autre. Hein. Sinon, il ne serait pas fidèle. Voilà, donc on voit bien que cette notion de fraternité universelle, elle existe déjà quand même dans l'Ancien Testament. Évidemment dans la constitution du peuple d'Israël, mais Israël est appelé à ouvrir cette fraternité, en tout cas aux autres, et en particulier aux plus fragiles. Mais le Christ lui-même fonde une nouvelle fraternité. Tout à l'heure je disais, voilà, qui sont mes frères, qui sont ma mère, ceux qui font ma volonté, voici mes frères. Celui qui fait la volonté de mon Père, qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Alors là, Jésus donne d'une certaine manière une définition du frère, c'est celui... Voilà. Il y a d'autres moments où il ne donne pas de définition, ou plutôt... Jésus, dans le récit du bon samaritain... Le légiste lui demande « Qui est mon prochain ?» Et par la parabole du bon samaritain, Jésus indique que la fraternité est une attitude. Il ne s'agit pas de savoir qui est mon frère, mais de qui je peux me rendre proche, de qui je peux être le frère. C'est à moi de devenir un frère pour l'autre. Jésus va plus loin, parce que le frère, c'est même celui, le prochain, c'est celui, c'est même l'ennemi. Hein. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu aimeras ton ennemi. Et bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis. En tout cas, la fraternité est constitutive de l'Église. Et le mot spécifique fraternité, il apparaît deux fois dans la première épître de saint Pierre, et il est employé comme synonyme de l'Église. Afin de suivre le Christ, la communauté chrétienne doit avant tout être fraternelle. Être disciple, c'est devenir frère et sœur jusqu'à être unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, dit aussi saint Paul dans l'épître aux Romains. Chapitre 12, verset 10. Voilà, selon saint Paul, le Christ, voilà, la fraternité est sauvée par le Christ. C'est pour cela que le Christ est venu, afin d'être frère de tous, le premier né d'une multitude de frères. Que tous soient réconciliés et se reconnaissent fils adoptifs d'un même Père, dans Éphésiens. Et alors, tout ce chemin, voilà, autour de la fraternité, blessé et restauré, il trouve son aboutissement dans l'Apocalypse. La Bible se termine avec l'annonce que l'accusateur de nos frères sera vaincu. Apocalypse 12, 10. Voilà, l'accusateur de nos frères sera vaincu, et donc la fraternité, le Christ vient restaurer la fraternité, il vient nous reconstituer frères et sœurs. Et c'est la bonne nouvelle. Voilà, c'est la fraternité est blessée, mais elle est sauvée par le Seigneur. Je pense que c'est important de garder ça, parce que sinon on peut désespérer. Alors, ce que le Seigneur a accompli, nous devons maintenant nous-mêmes nous y intégrer d'une certaine manière. Voilà, la parole de Dieu dessine donc un chemin d'une fraternité blessée à une fraternité restaurée, un chemin entre l'échec dramatique d'une fraternité originelle, voulue par le Créateur, et la réussite d'une fraternité victorieuse sur les puissances du mal, promise au terme de l'histoire. Mais cet appel à la fraternité trouve son sommet en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, Dieu se fait homme, non seulement il se fait homme, mais il se fait frère. Voilà, et nous sommes donc fondamentalement frères. Non pas seulement parce que créés par Dieu, mais parce que nous avons été adoptés par lui, que nous sommes les enfants bien-aimés du Père, et que le Christ s'est fait notre frère pour que nous soyons frères les uns des autres. Et donc, fondamentalement dans notre identité chrétienne, nous sommes appelés par le Seigneur pour former une communauté de frères et sœurs. C'est au cœur de l'appel que Dieu nous fait. Et cette fraternité qui nous unit, elle est fondée par le Christ et elle est sauvée par le Christ. Voilà, et bien sûr, on peut faire tous les liens avec l'Eucharistie. Voilà. Et vous voyez bien qu'au cœur de l'Eucharistie, il y a ce geste de fraternité, le geste de paix. C'est la blague, en Bretagne nous sommes tous frères parce que nous avons qu'un père. Mais c'est vrai. Nous avons un père, voilà. Donc nous sommes tous frères et sœurs. Voilà, c'est le fondement. Mais c'est bien de le dire, mais comment allons-nous le vivre? Voilà la question. Mais il me semble que, en tout cas, c'est important de revoir que c'est au cœur, c'est pas, c'est vraiment au cœur de l'histoire du salut. Ce qui veut dire qu'il faut prendre acte que c'est un combat que le Seigneur a mené pour nous, la fraternité. Et c'est sans cesse à remettre en route. Alors, si quelqu'un, ça c'est dans la première lettre de Saint Jean, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur.
Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Oui, voilà le commandement que nous avons reçu de lui, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère.
Bon, il n'est pas plus clair. Hein. Donc on n'a pas le choix, en fait. Si nous nous disons chrétiens,
c'est l'appel que Dieu nous fait. Sans fraternité, il n'y a pas de vie évangélique et donc il n'y a pas de vie chrétienne. Mais on peut aller plus loin, sans fraternité, puisque la vie chrétienne c'est aussi la mission, il n'y a pas de mission possible. Voilà, c'est impossible.
On ne peut pas être missionnaire si on ne vit pas la fraternité. Tertullien, au IIe siècle, écrit « Voyez comme il s'aime ». Voilà, et c'est un des premiers écrivains chrétiens qui rapporte ce que les non-chrétiens, des païens, disaient des disciples de Jésus, qu'ils voyaient vivre au milieu d'eux et qui subissaient les persécutions. « Voyez comme il s'aime ». Voilà, c'était le témoignage, c'était dans le monde païen, où les chrétiens étaient persécutés, les païens étaient surpris par l'amour que vivaient les chrétiens entre eux. Et c'était ça le cœur de leur témoignage. Donc c'est important quand même de penser à ça, puisque nous sommes revenus dans la même situation, de communauté minoritaire. Donc ça veut dire que les gens nous regardent. Ils regardent comment vivent les chrétiens.
L'Église ne porte pas la bonne nouvelle comme un message qui lui resterait extérieur. Elle en vit. Elle se laisse transformer par cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la fraternité.
Voilà, que nous avons à annoncer au monde, mais nous l'annonçons quand nous le vivons. Voilà. Nous ne l'annonçons pas quand nous faisons des discours. Alors on pourrait dire, on ne peut pas être crédible si on ne fait que des discours.
Donc l'Église devient un signe vivant de la bonne nouvelle quand elle vit la fraternité. Et c'est vrai pour toute communauté chrétienne. L'attention, le respect, l'amitié, le souci de justice, l'accueil de ceux les plus fragiles. Voilà autant de manières de vivre l'amour et la fraternité auxquelles l'Évangile nous appelle. Alors le lien entre fraternité et mission, le pape François en parle dans la joie de l'Évangile, numéro 179, le kérigme, c'est-à-dire l'annonce du cœur de la foi, possède un contenu inévitablement social. Au cœur même de l'Évangile, il y a la vie communautaire et l'engagement avec les autres. Le pape rappelle le lien indissoluble entre l'accueil de l'annonce salvifique et un amour fraternel effectif.
Alors, on ne peut pas dissocier les deux.
Et il ajoute, au numéro 195, « Comme elle est dangereuse et nuisible, cette accoutumance qui nous porte à perdre l'émerveillement, la fascination, l'enthousiasme de vivre l'évangile de la fraternité et de la justice. » Plus loin, il dit « Le critère clé de l'authenticité de l'annonce évangélique est celui de ne pas oublier les pauvres. » Bien sûr, cette fraternité, elle intègre les pauvres, les plus pauvres. Comme elle est dangereuse et nuisible, cette accoutumance qui nous porte à perdre l'émerveillement, la fascination, l'enthousiasme de vivre l'évangile de la fraternité. Vous savez que le pape Benoît XVI parlait d'une apostasie silencieuse de l'Occident. Alors, c'est-à-dire que les gens progressivement perdent la foi, renouent religieux. Et il y a ce risque, nous qui vivons dans ce monde sécularisé, individualiste, pour les communautés chrétiennes, d'une certaine manière, de se laisser prendre par l'esprit du monde et de ne plus vivre la fraternité. C'est vrai. L'individualisme nous touche, nous ne sommes pas hors du monde. Donc chacun vit son petit truc dans son petit coin et n'a plus cette attention qui pourtant est première par rapport à son frère, à sa sœur, en Jésus-Christ, et qui pourtant est au cœur de notre identité. Et il y a beaucoup d'obstacles à la fraternité. Je disais, l'un des obstacles, c'est... Une des réalités qui ont changé par rapport en l'espace de 50 ans, d'une ou deux générations, c'est le fait que la communauté chrétienne ne peut plus... ne se superpose plus avec la communauté de vie. Ça, c'est une vraie difficulté. En tout cas, c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte. Mais après, les autres obstacles, c'est une forme d'individualisme, c'est sûr. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ce constat, premier constat, que c'est au cœur du projet salvifique de Dieu, la fraternité blessée et restaurée, c'est donc au cœur de l'annonce de la bonne nouvelle. Une fois qu'on a fait le constat que, du coup, pour être témoin de la bonne nouvelle, il nous faut pouvoir témoigner d'une fraternité réelle et concrète, ben on peut se dire comment concrètement vivre la fraternité. Alors, j'ai mis fraternité ad intra et ad extra. Voilà, la fraternité dans la communauté chrétienne, entre les chrétiens, et la fraternité avec le monde. On ne peut pas... on ne peut pas les dissocier. Elles se nourrissent l'une l'autre. Alors, on dit, le Concile rappelle, et tout ce qu'on a dit sur le... que l'Église est une famille. Alors, comment témoigner véritablement de cela? Parce que si on dit juste « l'Église est une famille », mais que nous ne vivons pas comme une famille, c'est pas crédible. Du coup, c'est pas évangélique, et on ne peut pas témoigner, on n'est pas crédible. Donc ça veut dire que la fraternité, on sait bien que la fraternité ne peut pas se vivre dans une foule anonyme. Hier, le pape François a dit, dans son discours devant la mer Méditerranée, il a dit « ceux qui meurent, ce ne sont pas des numéros, ce sont des visages, ce sont des noms, ce sont des prénoms, ce sont des histoires, ce sont des fils, ce sont des pères. Voilà. » Ce n'est pas anonyme. Et donc comment est-ce que on expérimente le fait, on apprend à se connaître et à se reconnaître, à sortir de l'anonymat, à rechercher une fraternité qui témoigne de la présence du Christ dans nos vies. C'est difficile. Moi, j'ai été curé de paroisse. Il m'a fallu beaucoup de temps pour connaître les gens de la paroisse. Le bon pasteur connaît ses brebis, et ses brebis le connaissent. Il faut beaucoup de temps. Quand on arrive, des paroissiens arrivent dans une paroisse, il faut beaucoup de temps pour connaître. Mais c'est quand même compliqué de se dire on va célébrer l'Eucharistie et on ne se connaît pas. Vous voyez qu'il y a une contradiction qui, à mon avis, est assez dramatique. Mais je n'ai pas de solution toute faite. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est une famille si on ne se connaît pas? Voilà. Ce n'est pas possible. On n'est pas obligé de vivre tout le temps ensemble. Ça c'est les religieux qui en témoignent, qui témoignent de la fraternité comme ça, voilà, une vie communautaire. Mais je pense que l'anonymat, c'est très difficile. Quelqu'un qui vient dans une paroisse, qui vient à la messe, et puis en fait, personne ne lui dit bonjour, et il repart, sans que personne ne l'ait salué, ne lui ait... Il y a quand même une contradiction qu'il faut qu'on regarde en face pour pouvoir trouver des chemins. Voilà, l'anonymat, c'est la maladie de notre société. Voilà. L'anonymat. Voilà, on est des numéros à la sécurité sociale. Et dans nos villes, alors c'est vrai que peut-être dans les campagnes, il y a moins d'anonymat, je pense, dans le monde rural. Les gens se connaissent plus. Mais dans les villes, à Paris, moi j'ai vécu à Paris, c'est dingue en fait. Les gens ne se connaissent pas du tout. Le voisin, ils ne se connaissent pas. Donc c'est très concret. Une vie chrétienne, donc d'être témoin de fraternité, ça veut dire que... Est-ce que je veux dire bonjour à mon voisin? Vous savez que la fête des voisins, c'est quand même un chrétien qui a annoncé ça. Est-ce que je pense qu'il avait... Voilà, fête des voisins, et c'est une belle... dire, ben, c'est pas possible, on peut pas vivre... Voilà, l'anonymat, c'est... Et du coup, ça nous pose la question, quels sont les lieux où grandit la fraternité? Et on peut sortir de l'anonymat, c'est-à-dire apprendre à se connaître et à se reconnaître. Et à prendre soin les uns des autres. Et comme ça n'est pas dans la vie sociale quotidienne, ça n'est plus possible, puisque nous sommes minoritaires, nous sommes dispersés, nous sommes... voilà. Et ça n'est pas à la messe. Bien sûr, à la messe, on se rassemble, etc. Mais ça doit être la messe, c'est la source et le sommet. Mais c'est la source de notre fraternité et c'est le sommet de notre fraternité, de notre communion fraternelle. Mais entre les deux, entre la source et le sommet, il y a tout un chemin à parcourir. Alors du coup, c'est là-dessus qu'il faut vraiment réfléchir. Quels sont les lieux de fraternité? Quels sont les lieux de rencontre dans une communauté chrétienne? Entre les chrétiens et après avec les gens vers qui nous sommes envoyés. C'est quelque chose qui est ressorti très fortement de la démarche synodale. Voilà. Dans les propositions de la démarche synodale, la demande de fraternité est incessante. Il y avait des choses très concrètes. Se connaître, se reconnaître. Voilà. Est-ce qu'on met un... Là, je pense que beaucoup d'entre vous sont membres du conseil pastoral. Est-ce que les gens de la communauté chrétienne savent qui est au conseil pastoral? Donc, est-ce qu'il y a un trombinoscope pour que... Voilà. Mais c'est très concret, en fait. C'est des petites choses. Mais qui est au conseil pastoral? Qui s'occupe de la préparation d'un mariage? En fait, comment on apprend à se connaître? C'est-à-dire à faire attention à les uns aux autres. C'est pas facile. Hein. Parce qu'en plus, tout le monde court dans tous les sens. Alors quand on court dans tous les sens, c'est encore moins facile pour se poser et apprendre à se connaître et à se reconnaître. La fraternité vécue par une communauté chrétienne est prophétique. Dans le sens, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on ne s'est pas choisi. Voilà, c'est un signe prophétique pour le monde. Moi, souvent, quand je suis... Alors justement, à la messe, on le voit bien. C'est la joie d'un prêtre, d'un pasteur, je pense. C'est une grande joie de voir une assemblée paroissiale si diverse, avec des gens, des jeunes, des plus âgés, des gens qui votent à gauche, des gens qui votent à droite, des gens tradis, des gens progressistes, des gens... Tout le monde est différent. Gloire à Dieu. Et ça, vous voyez bien, quand je disais la fraternité blessée, l'Église a un combat à mener là-dessus. On a tellement de mal à nous accepter comme frères et sœurs. On voudrait que mon frère et ma sœur soient comme moi, qu'ils prient exactement comme moi. Moi, je me mets à genoux au moment de la consécration. Pourquoi l'autre, il ne le fait pas ? Laisse-le vivre. Et alors, ce qu'il y a de beau, c'est que justement, une communauté fraternelle, c'est une communauté où la diversité des sensibilités est respectée. Et saint Paul, il s'est confronté à ça dès les premières communautés chrétiennes. Vous voyez, la communauté de Corinthe, voilà, c'était le Marseille de l'époque, où les gens étaient tous différents, ils venaient de peuples différents, et ils avaient tous leur clan. Moi, j'appartiens à Apollos, moi, j'appartiens à Paul. Il dit, arrêtez tout ça, nous appartenons au Christ. Voilà. Et saint Paul insiste aussi, on peut pas dire, avec la comparaison du corps, on ne peut pas, le nez ne peut pas dire qu'il n'a pas besoin du doigt, et le... la comparaison. Mais vous voyez qu'en fait c'est très concret, et si on regarde, on voit bien qu'il y a un défi très fort dans le monde où il y a cette difficulté à accepter les différences, à accepter que nous ne sommes pas tous toujours d'accord. C'est pas grave de pas être toujours d'accord, à partir du moment où nous n'avons pas le sentiment d'avoir le monopole de la vérité. Et le pape François, dans un livre très beau, Un temps pour changer, parle de ça, du dialogue, parce qu'il n'y a pas de fraternité sans dialogue. Il dit parfois, on n'est pas d'accord. Et le pape, il est fort pour ça, d'ailleurs. Il n'a pas peur de ça, hein, de la contradiction. Il n'a pas peur de... parce que, il dit, enfin, en gros, personne n'a le monopole de la vérité, seul le Christ a la vérité. Et donc c'est ensemble qu'on va la chercher. On ne pourra jamais dire, moi j'ai la meilleure manière de prier, moi je suis le... Voilà. C'est ensemble qu'on avance, et en se respectant, en s'écoutant. Il faut du temps, mais... En tout cas, c'est un élément, tout ça pour dire que la diversité qu'il y a dans une communauté chrétienne est assez unique dans une communauté paroissiale. C'est pour ça que moi je suis heureux d'être prêtre diocésain, d'être curé, d'avoir été curé de paroisse. C'est parce que c'est des communautés variées. Voilà. C'est prophétique pour le monde. Il n'y a pas d'autre endroit, réfléchissez, où les gens se rassemblent dans une telle diversité. Ils ne se sont pas choisis, ils ont été appelés par le Seigneur pour vivre ensemble. Et ça, c'est prophétique. Mais encore faut-il que ce que l'on vit en se rassemblant autour de l'Eucharistie, on puisse le vivre aussi de manière réelle, c'est-à-dire vraiment s'accepter. Et c'est un défi. Hein. Et aujourd'hui, plus que... Je pense aujourd'hui plus que... C'est un défi pour le monde, et donc c'est un défi plus grand pour l'Église aujourd'hui. Vous voyez bien que dans l'Église, il y a quand même des tentations de division fortes. Et donc l'appel que nous recevons du Seigneur est dans le monde, mais... enfin. Et ces tentations de division, c'est justement comment nous allons témoigner de la fraternité évangélique à travers notre diversité. C'est essentiel pour la mission, parce que c'est là qu'est la bonne nouvelle. C'est le Christ qui nous sauve en faisant de nous des frères et sœurs, en nous accueillant. Et donc si nous, on arrive à vivre ça, alors les gens diront, voyez comme ils s'aiment. Ils diront, c'est étonnant quand même. Voilà, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, dit le Seigneur. C'est en Saint Jean, chapitre 13, verset 24. À mon avis, c'est un verset important. Alors, voilà, cette fraternité, voilà, ça n'est pas des clones. Il n'y a pas de fraternité. C'est étonnant de voir dans une famille, je ne sais pas si vous avez sans doute beaucoup d'entre vous des enfants, de voir comment des frères et sœurs sont différents. Moi, je suis toujours étonné quand je vois mes frères et sœurs, quand je vois les enfants de mes frères et sœurs, ils ont la même éducation, ils ont les mêmes parents, et ils peuvent se ressembler un peu physiquement, mais après, les tempéraments, ça n'a rien à voir. C'est drôle, mais c'est ça qui est beau. Donc on n'est pas des clones. Et je pense que le témoignage d'une communauté chrétienne, il est d'autant plus beau que cette diversité est visible dans la communauté. Après, il y a un autre point par rapport à la fraternité qui est essentiel, une vraie fraternité évangélique, mais au cœur le plus fragile, le plus petit. Dans une famille, celui dont tout le monde prend soin, c'est le plus petit. Le bébé qui vient de naître, la personne âgée qui a besoin d'être entourée, voilà, elle est au cœur de la vie familiale. Et bien dans une communauté chrétienne, ça doit être la même chose. La fraternité que nous vivons, que nous sommes appelés à vivre, doit mettre au cœur les plus fragiles. Et plus nous mettrons les plus fragiles au cœur de la fraternité, de la communauté, plus notre fraternité grandira. Moi, je l'ai vu quand j'étais à Béton, où on avait accueilli des réfugiés syriens. Et j'ai vu à quel point ça a fait grandir la fraternité dans la paroisse. C'est-à-dire des gens très différents, engagés de tous les âges, etc., se sont rassemblés pour accueillir cette famille syrienne, irakienne. Et ça a fait grandir la fraternité. Donc ça, c'est une constante pour que la fraternité grandisse. Les plus petits doivent y avoir toute leur place et ils doivent être au centre. Voilà, comment on accueille les plus petits, comment on accueille les enfants, comment on accueille les plus pauvres dans notre communauté, comment ils ont leur place, est-ce qu'on leur laisse de la place? La fraternité ne peut. Elle a besoin de ça. Enfin, et puis, la fraternité que nous sommes appelés à vivre est bien sûr pas fermée. Elle est toujours ouverte sur le monde, puisque nous sommes envoyés vers le monde. Donc nous ne sommes pas une secte. C'est une bonne nouvelle. L'Église catholique n'est pas une secte. Elle est catholique, c'est-à-dire universelle. Et donc les gens peuvent rentrer et sortir. Mais c'est important quand même.
Pour sortir, il faut sortir.
Voilà, alors, juste quelques... Je voudrais revenir aussi sur... la lettre pastorale de notre évêque qui est quand même qui fait suite à la démarche synodale dont je parlais tout à l'heure de 2018 afin que vous débordiez d'espérance. Dans ces lettres pastorales il y a combien d'orientations, une trentaine, beaucoup sont liées à la fraternité. J'en reprends quelques-unes. L'orientation 14, parce que ça peut être intéressant que vous travailliez dessus. Organisons la fraternité entre chrétiens. Voilà, on voit que c'est un don de Dieu, mais il faut l'organiser quand même. Alors, ça veut dire quoi, organisons la fraternité entre chrétiens? Là, ce qui est proposé dans cette orientation 14, c'est que des rencontres entre les personnes engagées. Par exemple, comment est-ce que nous vivons la fraternité dans le service auquel nous appartenons dans la paroisse? Voilà, qu'est-ce qui nourrit cette fraternité? Est-ce qu'on prend du temps gratuitement ensemble de temps en temps, évidemment autour de la parole de Dieu, mais juste de la convivialité, les catéchistes, les gens qui sont à l'accueil, les gens, voilà. Comment est-ce qu'on nourrit la fraternité?
Ça, c'est l'orientation 14. Donc, c'est la fraternité entre les chrétiens qui sont engagés. C'est important de s'interroger sur la manière dont nous la vivons vraiment, quoi. Une autre orientation, orientation 15. Favorisons la convivialité. Dans toutes les actions pastorales, faire goûter la joie de la fraternité à tous, y compris à ceux qui sont aux périphéries de l'Église. Ça peut être un questionnement que vous pouvez avoir dans comment est-ce que nous faisons goûter la joie de la fraternité aux parents qui viennent demander le baptême pour leur enfant. Voilà, à quel moment ils vont goûter cette joie? Et ils vont donc accueillir cette bonne nouvelle de la fraternité, puisque c'est... Est-ce que c'est en remplissant juste le formulaire de l'inscription au baptême? Non. Donc il y a plein, voilà. Mais c'est intéressant de s'interroger. Bon, l'accompagnement des familles en deuil, je pense qu'il y a cette fraternité qui est au cœur. Mais comment on le vit dans toutes les différentes dimensions, la préparation au mariage, la catéchèse. En tout cas, c'est une orientation, la convivialité. Il y en a besoin. Tout à l'heure, je disais la convivialité, donc bien sûr vers les gens qui sont un peu aux périphéries et qui viennent pour une demande de sacrement. Mais la convivialité entre nous, en fait. Vous voyez comment Jésus annonce l'Évangile. Il est souvent à table. Il s'invite chez Matthieu, il rassemble ses disciples, il est au mariage. C'est la convivialité. Mais c'est très important. Alors évidemment, les repas paroissiaux, les croissants quand on arrive pour la rencontre du matin, c'était bien. C'est très important, très très important. Voilà. La convivialité, comment est-ce que nous vivons la convivialité? Parce que c'est dans la convivialité qu'on apprendra à se connaître, voilà. À ne plus être anonyme.
L'orientation 32. Entrons dans une fraternité pour que grandisse la foi qui agit par l'amour. Alors là, vous le vivez déjà dans la paroisse à travers les cellules d'évangélisation ou les fraternités de la parole.
La fraternité, elle est concrète. Et elle est vécue aussi à travers ces petits groupes qui se retrouvent régulièrement, qui partagent vraiment leur foi, leurs questions autour de la parole de Dieu. Là, ça construit la fraternité. Donc c'est un point, à mon avis, essentiel aujourd'hui de développer ce type de groupe, parce que c'est vrai que c'est difficile de se connaître quand on est 50, 60, 100... Voilà, donc de prendre le temps d'être en petit groupe pour partager. Voilà, un chrétien isolé est un chrétien en danger, vous connaissez l'adage. Donc chacun devrait s'interroger dans la paroisse avec qui je parle de ma foi, de mes questions, avec qui je partage autour de la parole de Dieu. On ne peut pas avancer dans la foi, dans le monde dans lequel on est, s'il n'y a pas des lieux où on partage vraiment. Voilà, donc ces lieux, ces fraternités de la parole, où justement il y a la parole de Dieu qui est au cœur, il y a la convivialité, il y a la prière, il y a la mission. Alors c'est encore plus vrai dans les cellules d'évangélisation. C'est très important. Et d'ailleurs, c'est bien quand ça tourne un peu, que c'est pas toujours... quand les équipes se renouvellent, parce que ça permet de connaître d'autres gens.
voyez, il y a des équipes... ça dépend de l'objectif, mais dans, en tout cas, dans la constitution d'une fraternité paroissiale, à mon avis, c'est bien que ça tourne un peu. Mais c'est pas facile, parce qu'une fois que les gens ils sont ensemble, ils sont hyper contents d'être ensemble, ils veulent plus tourner. Alors, c'est pas la même chose, par exemple, une équipe Notre-Dame. Hein, moi, l'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça fait 40 ans qu'on est dans la même équipe Notre-Dame, mais on n'est pas dans la même optique. L'équipe Notre-Dame, c'est des couples qui partagent entre eux, et ils créent cette amitié tout au long de leur vie. Voilà, ils vont grandir ensemble, mais on n'est pas dans le cadre d'une fraternité de la paroisse, quoi. Pour une paroisse, je pense que c'est bien que ça... En tout cas, c'est... Voilà, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu de vous, dit le Seigneur. Quel témoignage de fraternité est donné dans nos petites communautés, dans nos villages? Voilà, là où il n'y a pas la messe tous les dimanches. Là où la communauté chrétienne ne se rassemble plus autour de l'Eucharistie, elle se rassemble peut-être dans une autre communauté, mais la communauté de vie ne se rassemble pas autour de l'Eucharistie. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de fraternité possible. Donc là aussi, il faut réfléchir à d'autres... moyen de se rassembler, de partager, pour faire grandir la fraternité et pour en témoigner. Voilà, en tout cas, dans la lettre pastorale de l'évêque, il y a pas mal d'éléments autour de la fraternité, parce que c'était quelque chose qui est ressorti très fortement de la démarche synodale. Et je termine avec la prière du pape dans son livre Fratelli Tutti, tous frères. Bon, c'est là. Ouais. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, et fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'Évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain, pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde, et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen. Voilà, merci. C'était un peu dans tous les sens, mais voilà, quelques idées pour vous aider à réfléchir sur comment vivre et grandir dans la fraternité.
Je pense que c'était plus que quelques idées. C'était les fondements, la fraternité par rapport à la création et la fraternité sauvée. Et merci beaucoup, beaucoup, parce que tu nous as donné aussi des pistes concrètes pour réfléchir aux moyens d'entrer dans ce chemin et aux moyens de devenir témoin de la fraternité dans le Christ. Voilà. Un immense merci. En tout cas, personnellement, chaque parole que tu as dite m'a nourri. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Vous êtes d'accord, hein?
C'est clair. Est-ce qu'on peut
parler? Vous avez des questions? Je ne sais pas si. Oui.
C'est il y a une fraternité à l'intérieur, à ad intra et à extra.
Ah oui.
Mais on a souvent l'impression que c'est un peu en conflit, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir passer beaucoup de temps à l'extérieur et beaucoup de temps à l'intérieur, et que. Et comment ça se conjugue en fait?
Alors, nous sommes appelés par le Seigneur. Notre fraternité, elle est fondée par le Christ, voilà, et par notre baptême. Voilà. Donc ça, c'est, on pourrait dire, la fraternité ad intra, c'est-à-dire qu'on a été appelés, voilà, pas parce qu'on est meilleur que les autres, mais parce que le Seigneur voilà, nous a fait cette grâce d'être chrétien, d'accueillir la foi. Et donc, voilà, il nous faut nous enraciner là-dedans, parce que la bonne nouvelle, elle nous vient du Seigneur. Plus nous vivrons la fraternité et nous témoignerons d'une fraternité sauvée par le Christ, plus nous serons des témoins pour ceux qui ne connaissent pas le Christ, et plus nous oserons aussi aller vers les autres, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de contradiction, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand je donnais l'exemple de cette famille de réfugiés qui avait été accueillie, où, bah, là, c'est la fraternité ad extra. Voilà, on accueille, c'était des musulmans en plus, c'était pas des chrétiens. N'empêche que le fait de vivre la fraternité avec eux a nourri la fraternité au sein de la communauté. Et si la communauté a été capable de vivre la fraternité avec eux, c'est que déjà il y avait la fraternité. Voilà. Et les chrétiens s'étaient rassemblés au nom du Seigneur pour aller. Donc il n'y a pas de contradiction, mais c'est vrai que c'est difficile. Il me semble que parfois, on a coupé le témoignage d'une vie fraternelle vis-à-vis du monde des périphéries de l'Église de la source. Voilà. Et du coup, alors c'est un humanisme, c'est un bel humanisme. Voilà. Mais il manque cette espérance que nous donne. C'est le Seigneur qui nous sauve, quoi. C'est le Seigneur qui vient sauver notre fraternité, qui vient restaurer les liens, qui nous envoie et qui nous donne cette espérance.
On ne peut pas s'occuper de la source.
Alors, ce qu'on avait prévu, c'était de prendre maintenant un temps de prière et ensuite de se retrouver en petit groupe. Pour voir quelles questions on te pose.
D'accord, très bien, pas comme ça.
Donc, c'est bien de garder ça parce que ça permet d'abord d'intérioriser et si on partage en plus petit groupe les questions que l'on a et qu'on te les soumet, ça permet que toutes les questions qu'on porte soient dites. Voilà. Donc, on se donne jusqu'à midi. On va exposer le Saint-Sacrement dans quelques minutes. Et puis, il y a la possibilité de rester à l'église, la possibilité d'aller dans les salles là-haut, d'aller dans le jardin. Donc, voilà. Jusqu'à midi.
Je vais partir.
À midi. Voilà. Puis ensuite... On partage le repas, on a amené déjà pas mal de choses aussi. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on se retrouve à midi. Et puis maintenant, ce sont ceux qui animent le mariage qui vont écouter l'enseignement ici.
Ah oui. Qui est enregistré, je crois.
Oui, c'est à pause goûter.
Vous avez 5-10 minutes quand même pour.
Bon. Merci.
Arrivée du mariage.
Très beau mariage.
Ah oui, c'est... Ah.